Information du monde réel. www.radiomondoreal.fm. Déforestation française en Indonésie. Avec Juliette Renaud, chargée de campagne sur les industries extractives aux Amis de la Terre France. Les Amis de la Terre France et Wally, les Amis de la Terre Indonésie, ont adressé une lettre à Nicole Bric, ministre du Commerce extérieur française, pour protester contre la mise en œuvre du méga projet minier Weda Bay d'Eramet, entreprise française, sur l'île d'Halmahera en Indonésie. Dans leur lettre, les organisations écologistes l'exhortaient à ne pas privilégier les intérêts des entreprises françaises au détriment des peuples, de l'environnement et du climat. La lettre fut envoyée le 20 juin 2013. Radio Mondoreal a interviewé la chargée de campagne sur les industries extractives aux Amis de la Terre France, Juliette Renaud, qui a expliqué qu'ils attendent depuis un mois une réponse de la part de la ministre et a également appelé à se mobiliser en soutien aux communautés qui résistent à l'entreprise minière Eramet. Bonjour Juliette Renaud, vous êtes avec Radio Mondoreal. Vous êtes chargée de campagne sur les industries extractives aux Amis de la Terre en France, qui ont mené une campagne contre le projet Weda Bay en Indonésie sur l'île d'Halmahera. Bonjour Juliette.
Bonjour.
Alors récemment, vous avez envoyé une lettre conjointe avec les Amis de la Terre en Indonésie à Madame Nicole Bric, la ministre française du Commerce extérieur, pour l'appeler à prendre en compte la protection de la biodiversité, mais aussi des populations qui vivent sur l'île. Quelle réponse avez-vous reçue après coup et qu'a fait la ministre pour garantir ce qu'on appelle la responsabilité des entreprises, outre des déclarations?
Alors en fait, on n'a pas reçu encore à ce jour de réponse à cette lettre. Donc c'est une lettre qu'on a envoyée à l'occasion de la visite d'Abed Negro Tarigan, donc le directeur de Wally, des Amis de la Terre Indonésie en France. Par contre, au moment de sa visite, on avait donc sollicité plusieurs rendez-vous au gouvernement français, notamment un rendez-vous avec le cabinet de Nicole Bric. C'est à cette occasion qu'on a remis cette lettre en main propre, pas à la ministre, mais à ses conseillers. Et il s'était engagé à ce moment-là à nous répondre sous 10 jours. Maintenant, il y a plus d'un mois qui est déjà passé. Mais bon, on attend toujours cette réponse. Par contre, lors de ce rendez-vous, on a quand même eu déjà plusieurs réponses de la part en tout cas des impressions de ce ministère. Et malheureusement, de la même tant à ce ministère qu'aux autres ministères qu'on a rencontrés. Donc on avait rencontré le cabinet de Pascal Canfin, ministre du Développement, ainsi que le cabinet d'Arnaud Montebourg, ministre du Redressement Productif, ministre de l'Industrie. Et ils sont un peu unanimes, on va dire, en disant que c'est un projet, c'est une priorité de ce projet, donc de mine de nickel Weda Bay de l'entreprise Eramet en Indonésie, et une priorité économique pour la France en Asie du Sud-Est. C'est un projet de 5 milliards de dollars, et donc on les a alertés sur les impacts sociaux et environnementaux de ce projet, mais voilà, selon eux, pour l'instant, les intérêts économiques du projet priment. Ils nous ont juste dit qu'ils allaient essayer de faire de limiter les dégâts, on va dire, de limiter les impacts au niveau social et environnemental. Et donc, il n'est pour l'instant aucunement question de suspendre ce projet, alors que selon nous et selon les Amis de la Terre Indonésie, il ne faudrait pas qu'elle ait lieu au vu de l'importance des impacts qu'il a. Selon Eramet, donc l'entreprise leader du projet, une entreprise française, il vise à terme une production de 65 000 tonnes de nickel par an, donc ça en fait un des plus gros projets miniers de nickel au monde. C'est un projet, donc, comme je disais, de 5 milliards de dollars, qui est détenu à 60% par cette entreprise française, et le reste est détenu à 30% par les Japonais Mitsubishi et 10% le gouvernement indonésien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Eramet est détenu à plus de 25% par l'État français, et c'est pour ça que non seulement nous on interpellait le gouvernement, non seulement vis-à-vis de leur responsabilité générale d'encadrer les activités des multinationales françaises, mais là, qui plus est, en tant qu'actionnaire de cette entreprise et donc du projet.
D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu donc des impacts, les impacts environnementaux et sociaux de ce projet sur les communautés et sur la biodiversité en Indonésie?
Oui, donc en fait, ce projet se trouve sur l'île d'Halmahera et c'est une île qui, en fait, est une grande réserve unique de la biodiversité avec un grand nombre d'espèces endémiques, donc qui se trouvent seulement sur cette île, un grand nombre d'espèces protégées ou même en voie de disparition, tant au niveau des espèces endémiques tant au niveau de la faune que de la flore. Et le problème avec ce projet, c'est que la zone de concession contient 45,8% de forêts protégées. Et donc en fait, pourquoi ça a été possible alors que la loi indonésienne interdit les activités minières dans des zones de forêts protégées, c'est parce que sous pression de plusieurs entreprises minières, en 2004, la présidente Megawati a utilisé une procédure exceptionnelle, un décret qui autorise 13 compagnies minières à avoir des activités dans des zones de forêt protégées. Donc ce projet va détruire toute une partie de ces forêts et même les zones qui vont pas être déforestées mais qui sont au contact avec le projet minier vont être fortement affectées du fait de la contamination, de la pollution qui existe avec tous ces projets, tout ce type de projets miniers. Et l'autre gros problème, c'est au niveau social, parce que c'est pas une île ville, il y a plusieurs vides, il y a un certain nombre de communautés qui existent sur cette île. Il y a principalement deux grandes communautés, une communauté qui sont côtières et qui dépendent principalement de la pêche pour vivre, d'autres communautés, donc ça c'est les communautés Sawai qui sont sur la côte, et d'autres communautés forestières, les communautés Togutil, qui sont une communauté nomade qui vit donc là plus haut dans l'île, dans les forêts, qui dépend encore très fortement de la nature pour leur mode de vie, qui dépend de ces forêts et d'une agriculture vivrière pour leurs moyens de subsistance. Et donc qu'est-ce qui se passe avec ce projet? C'est que tout simplement l'entreprise accapare les terres de ces communautés et que bien sûr les pollutions qui sont créées par la mine vont détruire toute la faune et la flore dont ils dépendent pour vivre. Et les échos qu'on a des communautés sur place, c'est qu'il y a eu une acquisition forcée des terres de la part de la compagnie qui s'est accélérée sur les quatre dernières années. Il y a en tout, comme le reconnaît la compagnie elle-même, il y a 21 villages qui seront affectés par le projet. Et comme je disais, il y a même 4 villages qui se trouvent à l'intérieur de la zone d'exploitation. Et même là, on n'en est qu'à la phase d'exploration, donc pas encore de production, mais la compagnie a déjà acquis les terres et de façon forcée, c'est-à-dire parfois même sous la menace, et en donnant seulement une compensation dérisoire aux personnes qui détenaient ces terres, c'est-à-dire je crois que c'est quelque chose de l'ordre de 60 centimes d'euros le mètre carré. C'est complètement ridicule. Mais voilà, surtout le problème, c'est qu'on n'a pas respecté le droit au consentement libre, préalable et informé de ces communautés qui n'ont pas eu d'autre choix. En fait, on leur a pas présenté d'autre choix que celui de remettre leur terre et de signer ces papiers de cession de leur terre à l'entreprise, parfois sous la menace de la police ou du personnel de l'entreprise.
Très bien. Et j'aurais une dernière question. Il vous a été proposé de saisir donc le PCN, qui est le point de contact national de l'OCDE, sur cette question, et aussi de participer au choix des experts de la COFAS qui vont réaliser l'étude d'impact. Je voulais vous demander qu'en était-il de cette saisine et aussi de l'étude d'impact prévue quant à ce projet.
Oui, donc en fait, ce qui se passe, c'est que les pays de l'OCDE se sont dotés les ont d'ailleurs révisés il y a peu, de lignes, ce qu'ils appellent les lignes directrices à l'attention des entreprises multinationales. Donc c'est un ensemble de normes que sont censées respecter les multinationales de l'OCDE. Et si elles ne les respectent pas, on a une possibilité de déposer une plainte auprès de ce qui s'appelle les points de contact nationaux. Donc il y a un point de contact dans chaque pays de l'OCDE. ces deux. Mais le problème, c'est que, un, ces normes ne sont pas contraignantes. Donc, les points de contact nationaux ne font que remettre des avis concernant, voilà, s'il y a eu, oui ou non, violation de ces normes. Et en gros, des recommandations au vu de ce qu'ils auront constaté. Et ce qui se passe, c'est que dans chaque pays, le fonctionnement du point de contact national est différent. Et en France, on n'a pas une très bonne expérience, voilà, avec notre point de contact national français. Les autres associations, même les Aviateurs, qui ont pu avoir recours au point de contact national n'ont pas eu de bons résultats, c'est-à-dire que les délais sont souvent longs et les décisions ne sont pas spécialement bonnes et favorables aux plaignants. Donc le plus souvent, ce qui est proposé, c'est une médiation et comme je disais, ça prend beaucoup de temps. Donc c'est vrai que vu le peu de résultats qu'on peut pense pouvoir obtenir de cette saisine du point de contact national, comparer l'importance des ressources qu'il faut mettre en œuvre pour établir une telle plainte, hein, donc réunir toutes les preuves, etc. Pour l'instant, on n'a pas prévu de le saisir. Et une autre chose qui est problématique dans le fonctionnement du point de contact national français, c'est que il y a deux choses. Un, il dépend du ministre de l'économie. Donc c'est un peu difficile d'avoir de ministre de l'économie qui est le ministère qui est le plus soumis aux pressions des lobbies des entreprises, donc avec souvent des décisions qui sont plus, on va dire, favorables aux entreprises. Et l'autre chose, c'est que une fois qu'on a déposé la plainte, enfin, une fois que cette plainte est acceptée, on n'a plus le droit de communiquer sur le sujet de la plainte. Alors que, comme on le sait, pour la société civile, le fait de faire du bruit et de notamment diffuser des informations dans les médias, c'est un moyen de pression très important sur les entreprises. Donc si on est privé de ce moyen de pression, ça nous prive de nos ressources indispensables pour essayer de faire campagne sur ce projet. Donc c'est pour ça que pour l'instant, on n'a pas prévu de saisir ce point de contact national. Et si les choses évoluent, peut-être qu'on le saisira à l'avenir, mais ce n'est pas notre priorité pour l'instant.
Très bien, merci. Merci beaucoup Juliette Renaud pour toutes ces informations.
Bah, merci. Et puis un dernier mot, voilà, qui dit... Oui. Un des projets les plus grands au monde, on va aussi avoir besoin du soutien d'associations et d'organisations un peu partout dans le monde, parce que c'est pas seulement malheureusement entre l'Indonésie, les aviateurs indonésiens et les aviateurs français qu'on va être en mesure de faire le poids face à ce projet. Donc on va sûrement lancer des pétitions ou autres ensemble pour essayer de recueillir d'autres soutiens. Donc c'est un appel aussi à la mobilisation pour soutenir cette lutte et pour soutenir les communautés qui sont en train de faire face à ce géant minier.
Information du monde réel. www.radiomondereal.fm